Bonjour à tous. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Quand Dieu met ta foi à l'épreuve ». Je ne connais aucun croyant qui n'a pas plusieurs moments, étapes de sa vie, des épreuves de sa foi. Ou alors, si c'est le cas, il faut s'interroger. Le Seigneur met notre foi à l'épreuve de bien des manières et parfois de manière très forte. Que faut-il en penser ? C'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin à partir d'un texte assez connu en général, l'histoire de la veuve de Sarepta que l'on trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 17. Mais pour bien comprendre ce récit qui nous est rapporté dans le livre des Rois, il est nécessaire d'en voir un peu le contexte pour comprendre de quoi l'on parle, de qui l'on parle et de ce qui se passe à ce moment-là. Nous sommes donc dans le livre des Rois au temps du règne d'un roi d'Israël nommé Akab, tristement célèbre, qui a régné au 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est un roi mauvais qui est décrit comme pire que tous ses prédécesseurs. Chapitre 16, verset 30 et suite. Pourquoi ? La Bible nous dit qu'il imite les péchés de Jéroboam, qui n'était déjà pas glorieux. Plus encore, il épouse Jézabel, qui est la fille du roi des Sidoniens, donc d'un peuple étranger, un peuple païen, qui a d'autres dieux, une autre spiritualité. Plus encore, il va jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et se prosterne devant lui. Mais ce n'est pas fini. Akab construit un temple en l'honneur de ce dieu à Samarie et y dresse un autel. Il faut savoir que le dieu Baal est de la divinité de l'orage la plus répandue chez les Sémites de Syrie et de Canaan. Plus encore, et ce n'est pas fini, il érige un poteau sacré à la déesse Asherah, qui est une autre divinité phénicienne et cananéenne. En gros, on a là un des pires rois que la Bible nous rapporte avec le roi Manassé, qui sera lui roi de Juda, 7e siècle avant Jésus-Christ, qui viendra plus tardivement. Il n'y a rien qui va avec ce roi-là. Plutôt que d'adorer le Dieu d'Israël, il prend d'autres dieux et les impose à son peuple. Vous doutez bien que cette situation va profondément irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les autres rois avant lui l'avaient fait. Donc là, on a vraiment atteint le top du top en termes de rois mauvais, décrit par la Bible. Au chapitre 17, qui va nous intéresser aujourd'hui, entre en scène un certain Élie. Élie, vous le connaissez, grand prophète de l'Éternel, Élie qui signifie « l'Éternel est mon Dieu ». Il va annoncer au roi Akab quelque chose de compliqué. Il annonce au roi qu'il n'y aura plus ni rosée, ni pluie pour les prochaines années, sauf si Élie le demande. Autrement dit, ça va être compliqué. La sécheresse va s'installer, il ne va plus y avoir de culture, il n'y aura plus de quoi manger, jusqu'à ce que Élie le décide. Autrement dit, Élie se retrouve dans une position où il a plus de pouvoir que le roi lui-même. Et ça, le roi ne va pas du tout aimer. Il va vouloir s'en prendre à Élie. Dieu va donc demander à Élie de partir et de se cacher près d'un torrent. Là, des corbeaux vont le nourrir et l'eau va lui servir de boisson. C'est le début du chapitre 17. Mais au bout d'un moment, vu qu'il n'y a plus de pluie dans le pays, le torrent va se dessécher. Il va donc y avoir plus d'eau et Élie va devoir partir. À partir du texte d'aujourd'hui, nous allons voir trois étapes d'une épreuve de la foi. La première étape, c'est notre situation. Ok, où est-ce que l'on en est ou qu'est-ce que l'on traverse ? La deuxième étape, c'est la pédagogie de Dieu, car Dieu ne met pas à l'épreuve juste comme ça, parce qu'il en a envie et puis parce qu'il veut nous challenger. Non, il y a des raisons où le Seigneur va user de pédagogie. Et la troisième, non des moindres, la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Thème très important qui, quand l'épreuve devient difficile, c'est un peu ce qui se met à vaciller. dans notre esprit seulement. Je vous indique donc à voir la première étape, notre situation. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Rois au chapitre 17. Alors le livre des Rois, il se trouve après les livres de 1 et 2 Samuel dans l'Ancien Testament. Et là, c'est le premier qui nous intéresse au chapitre 17. Je vais simplement lire les versets 8 à 12 pour commencer. Alors l'Éternel lui adressa, donc il parle à Élie, la parole en ces termes. « Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « Ah, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie est envoyé par Dieu à Sarepta. Et là, il y a trois paradoxes qui vont se succéder. Sarepta est une ville phénicienne sur la côte méditerranéenne. On est donc en dehors du territoire d'Israël. C'est le lieu d'où sont issues la reine Jézabel et le culte du dieu Baal. En gros, Dieu l'envoie en terrain ennemi. Terrain ennemi localement, mais terrain ennemi spirituellement. Il l'envoie donc chez quelqu'un qui est censé lui être hostile. Il est envoyé en plus, deuxième paradoxe, chez une veuve. Les veuves, elles faisaient partie des catégories les plus pauvres. C'est souvent des gens qui ne survivaient que grâce aux aumônes. Il ne l'envoie pas chez quelqu'un qui a des moyens, qui a des ressources, qui a des silos bien remplis. Il l'envoie chez quelqu'un qui n'a rien pour que cette personne prenne soin de lui. Deuxième paradoxe. Élie est envoyé chez une personne démunie et comme on l'a lu dans le contexte, en temps de famine, il ne pleut plus depuis longtemps, il n'y a plus rien. Déjà qu'en temps normal, la veuve, elle vit avec peu, mais là, la situation est encore plus extrême, plus précaire. C'est le troisième paradoxe. Terre ennemie chez une veuve en temps de famine. D'un point de vue humain, il n'y a rien qui va là. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et pourtant, contre toute attente, Élie fait confiance à Dieu. Il aurait pu se dire, oh, c'est un peu gros quand même. Je vais peut-être plutôt aller ailleurs, dans le pays d'Israël, éventuellement là où je peux tomber sur quelqu'un qui a encore un peu de dignité, qui croit encore au Seigneur, et puis qui peut-être viendra en aide à un prophète de l'Éternel. Non, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Mais Élie fait confiance à l'Éternel. Maintenant, imaginons la scène, mais du point de vue de cette pauvre femme. Elle est veuve, pauvre, c'est la famine, vous êtes en train de ramasser du bois, sûrement avec un moral plus qu'en berne, parce que ça sent la faim. Et un type que vous n'avez jamais vu, un étranger, débarque, vous demande d'aller lui puiser de l'eau pour qu'il puisse boire. Dans notre monde d'aujourd'hui, on dirait très probablement que c'est déplacé. Écoute, t'es bien gentil, mais tu te débrouilles tout seul. Je suis pas ton esclave. T'es gonflé. Mais c'est pas ce qu'elle lui répond. Elle y va quand même. Très probablement pourquoi ? Parce que comme le dit le texte, le Seigneur a ordonné à quelqu'un, à cette veuve, là-bas, de pourvoir à la nourriture du prophète. Elle y va. Mais Élie, lui, il s'arrête pas là. Il lui dit, « Ah bah attends, puisque tu vas puiser de l'eau, en plus, prépare-moi à manger. » commence à faire beaucoup, là, quand même, non ? Pour une femme dans une telle situation, en toute logique, elle lui répond qu'elle va préparer pour elle et pour son fils le peu qui lui reste. Bah oui, je ne vais pas mourir un étranger que je ne connais pas, je vais plutôt m'occuper de nourrir mon fils. Après quoi, ils n'auront plus rien et ils n'auront plus qu'à attendre la mort. Le texte, le contexte est dramatique. Dans notre situation d'aujourd'hui, on pourrait penser à deux types de réactions. La première, c'est que nous vivons dans un pays occidental riche. Nous avons tout à portée de main. Le Lidl, ce matin, il est ouvert, vous allez dedans, vous trouvez tout ce que vous voulez. De la viande, des pâtes, de la farine, etc. On ne manque de rien. Vous ouvrez le robinet, hop, vous avez accès à l'eau potable tout de suite, immédiatement. Pas besoin d'aller au puits, aller en puiser. Et vous avez accès à la nourriture sans vous en rendre compte. C'est devenu presque normal. L'autre situation est un peu plus complexe. Certains vivent à l'euro près, où on fait très attention à la notion de l'inflation, où on a peur de l'avenir, où on voit une crise financière qui s'éternise et où on se demande si demain on va réussir à s'en sortir. Ces deux situations aux antipodes nous montrent quelque chose. L'une a besoin de Dieu, l'autre estime ne pas en avoir besoin. Ah oui. Un missionnaire me racontait un jour que pour lui, les pays les plus durs à évangéliser sont les pays riches. Pourquoi ? Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont tout ce qu'il faut. La nourriture, le toit sur la tête, un beau travail, peut-être même une belle voiture, j'en sais rien. Quand on est comme ça, on n'a pas besoin de Dieu. C'est peut-être plus facile dans les pays en difficulté où les gens n'ont pas grand-chose et où Dieu, ça compte vraiment. Mais ceux qui pensent ne pas avoir besoin de Dieu parce qu'ils ont tout, en ont-ils vraiment pas besoin ? Pourquoi ? Est-ce que Dieu est juste perçu comme une aide, un distributeur de bénédictions, et puis une fois la distribution donnée, on n'en a plus besoin, on l'oublie ? Dieu peut permettre que nous nous retrouvions dans une situation délicate, voire critique. C'est souvent quelque chose à laquelle je pense quand je vois aux infos des zones sinistrées, des inondations où les gens perdent toute leur maison, ou des incendies où tout a été brûlé. En une nuit, ce qu'ils ont construit en des décennies, tout part en fumée. Et du jour au lendemain, ils n'ont plus rien du tout. Oui, le Seigneur peut nous enlever ce qui compte pour nous. Pour une raison peut-être bien particulière. Qu'on regarde à lui. Si tu regardes autre chose, le Seigneur peut te l'enlever. C'est une réalité. Dieu peut permettre que nous nous retrouvions dans une situation délicate, voire critique. Et cette veuve païenne vit une situation extrême, très critique. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'à attendre la mort. Mais cette situation, elle n'échappe pas au Créateur. Le Seigneur sait tout. Il voit tout. Et c'est notre deuxième point, la pédagogie de Dieu. On va revenir un petit peu en arrière dans la lecture, mais je vais lire jusqu'au verset 15, la première partie. Verset 11, je reviens en arrière. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste toujours tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qu'il me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. C'est intéressant car notre veuve païenne se met à jurer par l'Éternel, ton Dieu, donc le Dieu d'Élie, pas le mien, mais elle dit quand même le Dieu vivant. Verset 12. Est-ce que c'est là les prémices d'une confession? Est-ce que c'est là les prémices d'une reconnaissance? Ou est-ce que c'est un moyen de répondre au prophète avec un argument pour prouver sa véracité? Ou bien elle est tellement dans une situation critique, elle n'a plus rien à perdre, alors après tout. Vu que je n'ai plus rien, permets-moi d'utiliser pour moi et mon fils en guise de dernier repas, en guise de repas des condamnés. Car oui, une vie sans Dieu, c'est la condamnation. Condamné à la mort pour nos péchés. Toutes les richesses du monde ne sauvent pas. Jeff Bezos, Elon Musk ne peuvent pas, à coup de milliards, acheter leur salut. Ça ne s'achète pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut le donner par grâce. Parce qu'il n'y a que lui qui pouvait payer le prix. Toutes les richesses du monde ne sauvent pas. C'est ce que je réponds à ceux qui pensent ne pas avoir besoin de Dieu. Tu peux être aussi riche, avoir tout ce que tu veux. Ce n'est pas pour autant que tu seras sauvé. Et d'ailleurs, même le Seigneur le dit, hein, il est plus facile, je crois, je paraphrase, c'est quoi un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille que d'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, hein. Dans notre vie, si on réfléchissait à éliminer tout ce que nous avons, si on perdait tout pour regarder à l'essentiel, ça serait quoi l'essentiel? Il resterait quoi à la fin dans notre vie? Si on enlevait tout ce qu'on avait, il resterait quoi? Alors peut-être on dirait, il reste les membres de la famille. Oui, pas chez tout le monde. Ou alors, parfois la famille, il y a famille et famille, quoi. Quand ça devient compliqué, la famille, elle n'est plus trop là. Il reste quoi, à la fin? La dignité? Je ne sais pas. Pour nos croyants, il reste Dieu. Ah, est-ce que ce n'est pas là, en fait, notre plus grande richesse? Est-ce que ce n'est pas là le plus important? Celui qui peut garder notre héritage. Quel est l'essentiel finalement dans ma vie? Et lui, Élie lui répond de ne pas craindre. Mais comment ne pas être dans la crainte face à un tel dénuement? Ça n'a aucun sens. Il n'y a plus rien à manger. Et le gars qu'on ne connaît pas, qui vient d'un pays étranger, dit « T'inquiète. » Non, ça n'a pas de sens. Mais le prophète pousse encore. Tu vas faire ce que tu as dit, mais avant, d'abord, avec ce que tu as, prépare-moi à manger. Non, mais est-ce qu'il n'a rien écouté? Est-ce qu'il n'est pas un peu déconnecté de ce que la veuve, elle vient de lui dire? En fait, Élie, il est en train de provoquer la foi de cette païenne. Il provoque la foi de cette païenne. Mais il ne fait pas que ça. Il lui donne aussi une promesse. C'est le verset 14 que je vais relire. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. C'est une promesse que lui, humain, il est totalement incapable de tenir. C'est sûr. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Dans la situation de cette veuve, que ferions-nous ? En fait, c'est une épreuve de la foi. Ma vie, celle de mon enfant au sens littéral, ou bien Dieu? Le mauvais choix, et c'est la mort. Dans les deux sens, hein. Parfois, Dieu nous place dans des situations complexes où ce choix s'offre à nous. À quoi est-ce que je m'en remets? À qui est-ce que je fais confiance? Est-ce que je fais confiance en l'homme? Est-ce que je fais confiance en mes capacités pour me sortir de là? Est-ce que je fais confiance en mes biens? Ou alors est-ce que je fais confiance en ce Dieu que je ne vois pas? Pour répondre à cette question, il faut considérer Dieu. Comment le percevons-nous? Est-ce que Dieu est faible ou est-ce qu'il est tout-puissant? Est-ce qu'il commet des erreurs ou est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il ne fait que peu de cas de ses créatures ou est-ce qu'il les aime? Est-ce qu'il est mauvais ou arbitraire ou est-ce qu'il fait grâce? Qui est Dieu pour nous? Qui est Dieu pour toi? Tous ici, en tout cas ceux qui sont chrétiens, ont déjà vécu une épreuve de la foi. Et là, je prends un peu d'avance, mais on va faire des préparations au baptême bientôt. Et j'ai constaté dans mon expérience que souvent, après la préparation au baptême, pour ceux qui se font baptiser, il y a une épreuve qui tombe dessus, une épreuve de la foi. Car le diable, il n'aime pas ça. Et donc, c'est le moment où il met la foi à l'épreuve. Et c'est aussi le moment où le Seigneur peut-être dit « Ah, tu as témoigné devant tout le monde de ta foi, on va voir si c'est solide. » L'épreuve de la foi. Je ne connais pas de chrétiens qui n'en ont pas vécu, alors il y en a des plus difficiles que d'autres, c'est sûr, mais on en a tous eu à des moments donnés, ou peut-être que vous en avez une même en ce moment. Alors je vais faire appel à vos souvenirs. Prenez une épreuve de la foi dans votre esprit. Souvenez-vous de la situation dans laquelle vous vous trouviez à ce moment-là. Dans ce moment où vous aviez eu à placer votre confiance en Dieu, quel en a été le résultat? Quel en a été le résultat? Est-ce que ça valait le coup? J'étais surpris en discutant avec des personnes âgées qui avaient vécu parfois des épreuves particulièrement extrêmes, de me dire, ah, avec le recul, s'il fallait la revivre, je la revivrais. Car ça valait le coup de ce que j'ai appris avec le Seigneur. C'est fort, hein? C'est fort d'entendre ça. C'est la même question qui se pose ici pour notre veuve. Troisième étape, la fidélité de Dieu. Je reviens encore un petit peu en arrière à cette promesse et puis on va aller jusqu'au verset 16. « Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. L'épreuve de notre foi demande une seule chose. Fais-moi confiance, dit l'Éternel. Fais-moi confiance, contre toute attente. Même si, d'un point de vue humain, ça n'a absolument aucun sens, fais-moi confiance. C'est un état d'esprit. C'est une disposition du cœur. C'est un abandon. Un lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est dur dans la foi. Souvent, quand quelqu'un me dit « ça y est, j'ai rencontré le Seigneur, je lui ai donné ma vie », c'est beau d'entendre ça, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis quand on chemine avec les années, souvent on se rend compte que le « j'ai donné ma vie au Seigneur », il était un peu partiel. Ça, je l'ai donné, ça, je l'ai donné, ça, je l'ai un peu gardé. Ça, je l'ai donné, mais je veux quand même un peu avoir un contrôle dessus parce qu'on ne sait jamais. Et si jamais le Seigneur ne me répondait pas comme moi je voulais, dans le doute, je vais garder la main dessus, le lâcher prise. Et parfois, le Seigneur va nous mettre à l'épreuve, peut-être pendant des années. Moi, c'est ce que j'ai vécu. 10 ans d'épreuve pour lâcher prise sur un sujet. Je croyais pourtant, Seigneur, je te l'ai remis. Et dans les faits, ce n'était pas vrai. J'essayais de me convaincre. Et une fois que j'ai réussi à pleinement lâcher prise, c'est là que le Seigneur a mis fin à l'épreuve. Ça y est, tu as lâché, c'est bien. Parfois, c'est ce que le Seigneur cherche. Est-ce que tu me fais confiance vraiment jusqu'au bout? C'est ça la foi. Et le Seigneur la travaille par l'épreuve. Ce n'est pas facile à faire. Hein. Est-ce que le Seigneur va m'oublier? Est-ce qu'il va prendre soin de moi? En fait, la connaissance de Dieu est liée à la confiance que nous lui accordons. Et inversement, la connaissance que nous avons de Dieu est liée à la confiance qu'on lui accorde. Ça fait sens. La veuve ici, elle a le choix entre nourrir son fils et elle, ou bien nourrir cet Israélite dont elle ne connaît rien. Après tout, Élie aurait pu la manipuler. Mais en fait, si jamais elle avait choisi de se nourrir elle et son fils, qu'est-ce que ça aurait changé ? Elle aurait simplement retardé l'inévitable. Car elle le dit elle-même, quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. En fait, elle aurait simplement rajouté un petit peu de temps supplémentaire. Alors elle décide de faire ce que le prophète lui a demandé. Elle met en jeu le peu de temps qui lui reste pour nourrir ce prophète qu'elle ne connaît pas. Et qu'est-ce que nous dit le texte ? Elle a eu de quoi manger, elle et sa famille, et même Élie avec eux. En fait, ce que lui avait promis Élie n'était pas faux, parce que ce n'était pas une promesse d'Élie, c'était une promesse de Dieu. Notre foi en Dieu dépend de la connaissance que nous avons de lui. Qui est-il pour nous ? Ce texte nous rappelle que le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, notre Dieu, est un Dieu bon, mais aussi qu'il est fidèle et que ses promesses sont vraies. Ses promesses sont vraies. J'ai, dans ce type de circonstances matérielles, un texte qui me vient toujours à l'esprit, qui se trouve dans le Sermon sur la montagne, c'est dans Matthieu, chapitre 6. Je ne l'ai pas affiché, mais je vais vous le lire. Matthieu 6, verset 25, c'est donc Jésus qui enseigne, voici ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements ? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger les jours de son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? La veuve. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. D'une manière générale, l'être humain place sa confiance en lui-même. Et je trouve ça, je ne sais pas si le mot est fascinant ou déplorant, de voir sur les réseaux sociaux le nombre de comptes qui postent sur des questions de motivation personnelle. Vous savez, ces petites phrases que vous pouvez lire dès le matin, « Aujourd'hui sera une grande journée pour toi. Réalise tes rêves. Si tu veux, tu peux. Il suffit simplement de le vouloir, etc. etc. » Sauf que la réalité est totalement différente, car des choses nous échappent. Nous faire croire qu'on a le contrôle sur tout et que si on rêve d'avoir une Ferrari, il suffit de le vouloir pour l'avoir, ça ne marche pas vraiment comme ça. Que penser de quelqu'un qui naît et qui grandit dans un pays pauvre ? Saisis tes rêves ! Des choses nous échappent, parce que nous sommes des êtres limités, des créatures. Et cette perception est encore plus forte dans les pays difficiles, car oui, personne ne choisit où est-ce qu'il naît, au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un pays en guerre, un pays pauvre, un pays frappé par des crises humanitaires ou des crises naturelles. Comme cette veuve qui vit une précarité de la vie, qui ne vit aucune paix réelle, qui est toujours préoccupée à essayer de nourrir son fils, se nourrir elle. Finalement, elle fait plus que lui faire confiance. Elle lui remet sa vie entière et celle de son enfant. Même si nous n'avons plus rien, il nous reste encore notre cœur. Et ce cœur-là, on peut le donner à Dieu. C'est le premier pas vers la vie, mais c'est aussi le premier pas vers le repos, vers la paix que seul Dieu donne. J'ai fait exprès, dans Matthieu 6, de ne pas aller plus loin. Car ces versets, on va les lire maintenant, versets 33 et 34. Matthieu 6. « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses dont on a parlé, la nourriture, les vêtements, etc., vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour. » Suffit sa peine. Ah non, on est le premier à prévoir la semaine prochaine et le mois suivant. À chaque jour suffit sa peine. Se décharger sur Dieu, lui donner notre vie, nous remettre entre les mains du Tout-Puissant, de celui qui est bon, de celui qui nous aime, de celui qui est fidèle, de celui qui prend soin de nous, mieux que nous, nous prenons soin de nous-mêmes. Mais attention, ne plus se préoccuper ne signifie pas ne rien faire. La veuve a dû faire un acte de foi. Elle a dû préparer à manger à Élie avec ce qui lui restait. Dieu ne nous appelle pas à une foi passive. Non, il nous appelle à une foi active. Active dans l'obéissance à ce qu'il nous demande. Active dans la soumission à sa volonté de Dieu décrite dans sa parole. Il ne s'agit pas de faire pour obtenir quelque chose de Dieu, hein, qu'on soit bien d'accord, mais bien de faire parce que Dieu a fait de nous ses enfants. On inverse l'ordre. C'est une nouvelle perspective de vie, faire du royaume de Dieu et de sa justice notre priorité. C'est ça finalement que fait la veuve, et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Car Dieu donne librement et non en réponse à nos bonnes actions. En conclusion, oui, l'Éternel éprouve notre foi, parfois de manière très dure, très forte. C'est une réalité. Mais au lieu de ne regarder qu'à notre condition, regardons plutôt à Christ, lui qui est bon, qui est fidèle et qui a vécu l'épreuve ultime. Hein. Rappelons-le. Car il n'y a pas d'épreuve inutile, mais même si c'est dur, considérons la richesse véritable qui en résulte. Celle-là, elle ne s'achète pas, elle se vit. Pour celles et ceux qui étaient là, aux obsèques de Charles, j'ai lu un texte et j'avais déjà préparé cette prédication avant de faire le texte pour Charles, mais je trouve ça surprenant, coïncidence de Dieu, gros guillemets, de voir que dans la conclusion, j'avais déjà remis ce texte. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen.